Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce sont des trésors enfouis que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène sur les traces d'un amoureux de l'Égypte antique.
Bonjour à tous, c'est un grand personnage, un grand passionné que nous allons rencontrer aujourd'hui. Il aura vécu ce que très peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir vécu, la restitution à l'humanité de tout un pan de sa mémoire, en l'occurrence celle de l'Égypte antique. Ce passionné, vous l'avez compris, s'appelait Jean-François Champollion. Dites-vous que si nous connaissons si bien la vie d'Hatshepsout, d'Akhenaton ou de Ramsès II, c'est grâce à lui. Un magnifique album paru chez Lamartinière retrace, photos et gravures à l'appui, l'aventure exaltante des savants et des aventuriers en Égypte. Champollion a fait le voyage très tard, mais il nous a donné les clés de cette fantastique civilisation.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Aujourd'hui, ça nous paraît évident. L'Égypte est une destination touristique majeure. La vie au temps des pharaons est enseignée dans les collèges. Néfertiti et Cléopâtre sont devenus des stars de l'histoire. Et les plus gros tirages de l'édition sont pour des romans historiques qui ont pour cadre le Nil, le Karnak, Louxor et la Vallée des Rois. Mais encore une fois, dites-vous bien que tout ça, c'est à Jean-François Champollion que nous le devons. Avant lui, pendant des siècles interminables, l'Égypte n'avait été qu'un gigantesque champ de ruines, avec ses vestiges muets, presque absurdes. On connaissait les sites, on admirait les temples et les pyramides, et encore, mais on n'avait que peu d'idées de la civilisation qui les avait édifiées. On regardait avec des yeux ronds ces kilomètres de parois sculptées d'hiéroglyphes, en creux sur les murs extérieurs, vous savez, en relief sur les murs intérieurs. On n'avait pas la moindre idée de ce que toutes ces archives de pierre avaient à nous dire. Naturellement, le défi était dans l'air et les tentatives de déchiffrage étaient nombreuses. De ce point de vue, on peut dire que Champollion est un enfant du 19e siècle, c'est un enfant de son temps. Seulement avant lui, les savants avaient fait chou blanc. Pour réussir là où tout le monde avait échoué, il allait falloir une invraisemblable conjonction de circonstances. D'abord, dites-vous bien que Jean-François est né en 1790, c'est-à-dire qu'il a tout juste 10 ans au moment où l'expédition militaire, mais aussi et surtout scientifique et artistique, expédition conduite en Égypte par Bonaparte, rentre à Paris. 175 lettrés civils sont de retour, avec dans leur bagage des trésors fabuleux. Le dessinateur de l'expédition n'est autre que Vivant de Nom, dont les sublimes planches seront publiées à grands frais un peu plus tard dans la célèbre description d'Égypte. Naturellement, Champollion ne va pas être le dernier à découvrir tout cela. Surtout, en août 1799, à 70 km environ d'Alexandrie, dans le delta du Nil, donc on est là tout au nord de l'Égypte, les militaires français vont découvrir la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Il s'agit d'une tablette de granit noir. Elle mesure 1 mètre sur 75 cm. Elle a été trouvée à Rosette exactement lors des travaux de renforcement d'un vieux fort turc. Et sur ce morceau de granit poli sont gravés 3 textes. Un en hiéroglyphe, un en démotique et le troisième, et c'est ce qui est utile pour les chercheurs, en grec. 2 jours après cette découverte essentielle, Bonaparte s'est rembarqué pour Paris, laissant les Anglais invaincus, et la pierre de Rosette tombe dans les mains du major général Turner, qui va l'envoyer à Londres, au British Museum, où elle est toujours. Ce n'est pas si grave, les Français ont eu le temps d'en prendre une copie, et bien c'est sur ces copies que travailleront les candidats au déchiffrement. Le ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui s'occupe aussi des Beaux-Arts, confie d'abord les copies de la pierre de Rosette aux plus prestigieux orientalistes de l'époque, Sylvestre de Sacy. Celui-ci établit une traduction précise de l'inscription du bas, celle qui est écrite en grec, jusque-là ça va. Et puis montant un palier vers le texte en démotique, Sylvestre de Sacy parvient à y repérer quelques noms propres, Ptolémée, Alexandre, Épiphane. Mais il ne va pas tellement plus loin et malgré la collaboration d'un savant suédois, il bute sur l'aspect idéographique des symboles égyptiens. C'est-à-dire que les symboles égyptiens parfois traduisent des sons mais souvent traduisent des idées. Ça c'est un problème. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être lire et parler couramment, j'allais dire depuis l'enfance, les langues anciennes de la région. Eh bien précisément, au même moment, un garçon de 11 ans commence à réunir ses conditions. Il a suivi son grand frère venu travailler à Grenoble en provenance de Figeac dans le Lot où leur père tenait une librairie. À 5 ans, cet enfant a appris à lire tout seul dans un missel. À 11 ans, il maîtrise le latin, le grec, l'hébreu. Vous avez compris que nous parlons de Jean-François Champollion. Nous parlons de cet homme grâce auquel bientôt les hiéroglyphes égyptiens ne seront plus un secret. Eh oui, Champollion, un fort anthème au sens propre, puisqu'à 17 ans, il est élu à l'unanimité membre de l'Académie de Grenoble. Voyez un petit peu à qui vous avez affaire. Son grand frère l'envoie étudier à Paris, et pour le jeune surdoué, on peut dire que c'est un changement de vie. Il va mener à Paris l'existence d'un étudiant pauvre et solitaire. Il s'abîme littéralement dans l'étude des langues anciennes, à commencer par le copte. Or, un beau jour, Champollion apprend qu'on peut rencontrer à Paris des coptes qui ont suivi Bonaparte au moment où il est rentré. Alors, il se rapproche de ces cercles-là, et d'une façon plus générale du petit monde des passionnés d'Égypte. Il rencontre des vétérans de l'expédition Bonaparte, dont Sylvestre de Sacy lui-même, qui l'impressionne par son érudition. En 1808, ces grandes relations se révèlent utiles pour permettre à Champollion d'échapper à la conscription. En 1808, on est en plein dans les guerres napoléoniennes. Sa santé défaillante n'y avait pas suffi. À force de s'abîmer dans le travail, ce garçon est mal nourri, il est mal chauffé. Bref, il avait contracté la tuberculose et il est déjà sujet à des quintes de toux terribles. C'est à ce moment-là qu'il s'intéresse aux hiéroglyphes. C'est une publication en fait qui va tout déclencher. Un jour sur le chemin du Collège de France, un de ses camarades lui annonce « Ça y est, on vient de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens ». Le sang de Champollion ne fait qu'un tour. En fait, la publication en question signée du grand, du fantasque Alexandre le Noir ne va pas très loin, mais c'est un déclic. On peut dire qu'à ce moment-là, Champollion se met au travail et que son travail va durer 12 ans. Alors d'abord, il essaie de s'abstraire de toutes les idées fausses qu'on a pu véhiculer sur les hiéroglyphes. Strabon, Diodore de Sicile ont fourvoyé des générations de chercheurs en affirmant que les signes étaient des idéogrammes à portée seulement symbolique. Toutes sortes d'érudits veulent y voir des motifs décoratifs, astrologiques, pourquoi pas même bibliques. L'intuition de Champollion, et c'est une intuition soutenue par un certain nombre d'autres érudits, c'est qu'il s'agit de signes, sinon alphabétiques, du moins phonétiques. Chaque hiéroglyphe représente un phonème. En juillet 1809, Champollion a donc 18 ans. Le voilà, il est déjà docteur, nommé professeur à l'université de Grenoble. Il le restera jusqu'en 1815. Il continue à travailler sur le sens des hiéroglyphes. Il progresse. Il va même assez vite. Grâce au texte grec, on sait, vous savez que cette pierre de Rosette, grâce à la partie basse de la pierre de Rosette, on sait que le texte est consacré à Ptolémée Épiphane. Alors Champollion se dit qu'il doit pouvoir retrouver le nom de ce roi dans le texte. Or, justement, il y a des hiéroglyphes qui sont cerclés, qui sont dans des cartouches. Alors il place les lettres de Ptolémée sous les signes du cartouche, enfin ça va pas très loin. Et voilà que on rapporte en Grande-Bretagne l'obélisque de Philae qui porte deux inscriptions, des hiéroglyphes et encore du grec. Et là on retrouve les noms de Ptolémée, mais aussi celui de Cléopâtre et puis d'autres d'Alexandre, Tibère, Domitien, etc. Tout ça dans des cartouches. Là, Champollion a presque trouvé. En septembre 1822, il reçoit les reproductions de deux bas-reliefs pleins de hiéroglyphes. Et sur la première de ces reproductions consacrées au sanctuaire d'Abou Simbel, Champollion repère dans un cartouche le phonème mes qu'il connaît maintenant très bien. Or, au-dessus, il y a le disque solaire, le disque de Ré ou de Ra. Ra, mes, Ramsès. Son cœur se serre. Deuxième feuillet, on voit l'ibis de Thoth. Avec le phonème mes, même chose, tot, mes. Là, la lumière se fait dans son esprit. Certains signes sont seulement des sons, d'autres valent par l'image, mais aussi par le son. On peut dire que Champollion a fait une découverte. Il détale voir son frère qui est en train de travailler tout près de là, au palais Mazarin. « Je tiens l'affaire, lui dit-il, et là, il se raidit, la bouche ouverte, et il tombe sur le parquet. » Et oui, vous avez bien compris, notre Champollion vient de tomber en catalepsie.
Un extrait de Mozart l'Égyptien sur Europe 1. On continue d'évoquer Champollion cet après-midi. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un court instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Hiéroglyphes ont été déchiffrés, c'est ce que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1.
Champollion, vous avez vu, est tombé en catalepsie après avoir raconté à son frère la découverte qu'il venait de faire. Ça vous donne une idée de l'enthousiasme de ce personnage. Il écrira du reste « L'enthousiasme seul est la vraie vie ». Il reste 5 jours et 5 nuits inconscient à la suite de cet accident tout de même. Et le 6e jour, il rouvre les yeux, sourit et reprend la conversation avec son frère exactement là où il l'avait laissé. Il se relève et en quelques heures, oh, d'une plume rapide qui sur le papier ne parvient même pas à suivre la vitesse de l'idée, il rédige ce qui va devenir une communication pour l'Académie des inscriptions et belles lettres. Communication sur l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, c'est le titre qu'il lui donne. 2 années encore seront nécessaires à Champollion pour établir un dictionnaire et une grammaire de la nouvelle langue. Maintenant, on peut dire qu'il est connu, reconnu, il est même pensionné par l'État. Très curieux d'aller appliquer ses nouvelles connaissances à des documents inédits. Et où se trouve l'essentiel des grandes collections d'égyptologie à l'époque ? En Italie. Donc voilà, Champollion parti à Florence, à Rome, à Naples. C'est surtout à Turin qu'il découvre des merveilles. Il faut imaginer ce qui est en train de lui arriver tout de même, page après page. Jour après jour, Champollion est en train de réveiller, de ramener au monde une civilisation dont on avait tout oublié. Les mœurs, les pratiques funéraires, les fêtes, tout réapparaît comme ça après un long sommeil de 15 siècles. Je cite Champollion. « J'ai vu rouler dans ma main des noms d'années dont l'histoire avait totalement perdu le souvenir, des noms de dieux qui n'ont plus d'autel depuis 15 siècles. Et j'ai recueilli, en respirant à peine, craignant de le réduire en poudre, tel petit morceau de papyrus dernier et impur refuge de la mémoire d'un roi qui, de son vivant, se trouvait peut-être à l'étroit dans l'immense palais de Karnak. » Champollion est nommé par le roi Charles X à la tête du tout nouveau département égyptien du musée du Louvre. C'est pour lui une consécration, mais ce n'est pas le couronnement dont il rêvait. Ce couronnement de sa carrière, il va intervenir un peu plus tard, en juillet 28, ça va durer jusqu'en décembre 29, c'est le premier grand voyage de Champollion qui se fait pousser, qui se fait porter littéralement jusqu'en Égypte. À bord d'une felouque, il remonte le Nil, alors il tousse beaucoup, il a la fièvre, il est un peu comme moi aujourd'hui, mais c'est plus grave, parce que c'est la tuberculose, enfin j'espère pour moi que c'est plus grave. Dans ce paysage égyptien extraordinaire, Champollion touche enfin du doigt ses rêves. C'est un bonheur absolu pour lui et c'est un véritable triomphe. Il est déjà très connu là-bas en Égypte. On l'acclame littéralement et il est là, il lit sur les temples, il lit sur tous ses murs comme à livre ouvert. C'est tout à fait extraordinaire ce qui est en train de se passer. Alors, bien entendu, il en profite pour dénoncer un certain nombre de déprédations et informer le sultan de mauvais état d'un certain nombre des monuments de l'Égypte. Quand il rentre en 1831, on lui confie la chaire d'égyptologie au Collège de France, où il ne donnera que quelques leçons parce que la tuberculose, mais aussi le diabète et la goutte ont pris possession du bonhomme. Le 27 janvier 1832, il dit « Ah mon Dieu, encore 2 ans, voilà ce qu'il lui faudrait, encore 2 ans, pourquoi pas ?» Non, il ne les aura pas ces 2 ans. Oh, c'est trop tôt, dit-il. Il se tape le front. Il y a encore tant de choses là-dedans, dit-il. Le 29 janvier, c'est la paralysie générale. Il ne peut plus parler. Le 3 mars, il recouvre la parole, mais c'est juste pour adresser ses adieux à sa femme et à son frère. Il regarde les objets de sa collection et puis il s'éteint comme ça. À 41 ans, il s'éteint encore au sommet de l'enthousiasme. Il l'avait dit. L'enthousiasme seul est la vraie vie.
La Bacchanale de Samson et Dalila, composée par Camille Saint-Saëns. On vous retrouve, cher Franck, avec votre invité.
Et oui, mon invité est Jean-Claude Simoen, qui est l'auteur, entre autres, parce que vous allez voir qu'il a publié pas mal d'ouvrages sur ce sujet, de Savants et aventuriers en Égypte, sous-titré de l'Antiquité au XXe siècle. C'est un très bel album aux éditions de La Martinière, un album qui nous fait, qui nous offre une promenade extraordinaire, non seulement à travers les grands sites de l'Égypte, mais aussi à travers les grands personnages qui ont rendu à ces sites toute leur histoire. Je le répète encore, l'art égyptien ne doit qu'à lui-même tout ce qu'il a produit de grand, de pur et de beau, et n'en déplaise aux savants qui se font une religion de croire fermement à la génération spontanée des arts en Grèce, il est évident pour moi, comme pour tous ceux qui ont bien vu l'Égypte ou qui ont une connaissance réelle des monuments égyptiens existants en Europe, que les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte. Voilà le début d'une citation qui sert d'exergue à ce très bel album, Jean-Claude Simoen. On peut dire que c'est une énorme découverte qu'a faite Champollion et qu'il nous a permis à tous de refaire après lui.
Cette citation est une profession de foi en soi et j'ai tenu à la mettre en exergue de mon livre pour bien montrer la vision du personnage. Car on ne dira jamais suffisamment que tous ces gens qui posaient leurs questions, leurs interrogations sur les civilisations disparues, qui ont fait sortir, comme Champollion, mais il n'a pas été le seul, toute une civilisation de la nuit des temps.
Ah, absolument.
C'était d'authentiques savants, c'était des érudits. Or, dans ce champ de ruines que représentait l'Égypte, mais c'était la même chose pour Babylone, la Mésopotamie, il y avait là des gens qui étaient à la solde des grands antiquaires, voire de certains pays, ou en tout cas pour de certains musées, et qui se battaient sur le terrain pour récolter des antiques. On ne parlait pas encore d'archéologie. Le mot archéologie est un mot qui va arriver
plus tard,
tout juste dans les années 1890. Oui. Avant, c'était un champ de ruines dans lequel les gens, sans vergogne, venaient se servir.
Ils étaient en train tout simplement d'inventer une discipline et de redécouvrir tout un monde.
Geste insoufflé, je vacille. Regarde autour de nous, tout scintille. Une phrase me blesse indélébile. Sur un fil, un regard et je dégringole. Si je t'offre un secret, tu décolles.
Le groupe Circus sur un fil est un extrait de leur premier album qui sortira le 5 novembre.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
J'ai sous les yeux plusieurs de vos ouvrages, Jean-Claude Simoen. Le voyage en Égypte, ça c'est dans la collection J'ai lu en images. Et puis un ouvrage remarquable qui est une véritable référence, l'épopée de l'archéologie, savants et aventuriers qui dépasse le cadre de l'Égypte. D'où vous vient cette fascination pour les archéologues et pour l'Égypte en particulier ?
De beaucoup de lectures et particulièrement un personnage qui est, on appelle ça, quand on fait de la radio, une insert formidable, en tout cas je réponds à votre question, qui est un personnage qui doit son nom, qui s'appelle exactement De Chasse-Bœuf. C'est un conte, il a une admiration pour Voltaire et il va transformer son nom De Chasse-Bœuf en le préfixe « vol », et Ferney, la terminaison, et il va devenir De Chasse-Bœuf, il va devenir Volney. Il a écrit plusieurs livres, dont un livre qui a nourri toutes mes ambitions et que je ne cesse, auquel je ne cesse de revenir, qui s'appelle Les Ruines, qui est une réflexion formidable sur le déclin des civilisations, comment les civilisations très importantes, celles qui ont imprimé les premiers pas de notre histoire, celles qui sont donc identitaires, ont-elles disparu ? La civilisation sumérienne, la civilisation pharaonique.
Et on parlera de ce qui s'est passé entre Tigre et Euphrate un de ces jours. C'est une idée qui me vient.
Tiens. Mais volontiers.
Il faut les noter, toutes ces idées, parce qu'on finit par les oublier.
Et donc, Volney va publier donc ce livre qui s'appelle Les Ruines. Ce livre va tomber entre les mains d'un personnage assez étonnant dans l'entourage de Bonaparte, qui évidemment est Talleyrand. Talleyrand est un grand lettré, c'est un homme d'argent, ça c'est une émission à elle toute seule.
Ah oui, on l'a fait.
Et Talleyrand va soumettre une idée formidable à Bonaparte, qui a besoin de se refaire une virginité politique, qui a besoin de redorer son blason, et il va lui dire, mais il y a une expédition à monter, nous allons aller conquérir l'Égypte. Et le dénommé Volney ne s'arrête pas à la publication des ruines. 3 ans après la publication de ce livre majeur, il va se rendre, lui, en Égypte. Il va publier un livre qui est assez intéressant parce que c'est le premier regard d'un occidental et d'un Français sur une civilisation qu'on méconnaît complètement. Nous sommes dans les années 1790.
Oui, c'est une époque où, lorsqu'on parle de l'Antiquité, on ne parle en gros que de la Grèce et de Rome, en fait. Hein. L'Égypte n'existe pas.
Le reste est gommé, ouais. Et ça est complètement noyé dans la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus que cela existe.
C'est ça, hein, c'est incroyable.
Et il y a très peu de voyageurs, très très rares sont les voyageurs qui se sont rendus au XVIIIe siècle en terre pharaonique. Et ceux qui ont pris sur eux-mêmes et qui ont eu le courage de braver tous les interdits n'ont jamais dépassé ou le delta ou la ville du Caire. Et pour plein de raisons.
On voyage peu, on voyage lentement, mais ça permet ça de prendre le temps. Les savants que Bonaparte emmène avec lui dans cette expédition, et tous ceux qui vont suivre, bien entendu, car ce n'est que l'ouverture d'une porte par laquelle s'engouffreront des générations de chercheurs, ces savants sont des gens qui ont le temps. Vous disiez tout à l'heure, on n'imagine pas à quel degré leur érudition peut monter. Ça me fait penser à un personnage beaucoup plus proche de nous, mais je me rappelle cette interview de Georges Dumézil, où il disait qu'il était capable d'apprendre une langue simplement en la lisant, en découvrant comme ça dans un écrit. Il lisait, et puis au bout de quelques pages, il finissait par connaître la langue.
Il appartenait, Georges Dumézil, que j'ai rencontré, à de ces rares personnages qui ont presque la mémoire immédiate.
C'est ça. Hein.
La mémoire totale. C'est presque une hypertrophie, d'ailleurs, une grave maladie.
Mais c'est le cas d'un certain nombre des savants dont nous parlons, et de Champollion notamment.
Alors, Champollion n'avait pas la mémoire totale, mais il était, comme tous ces grands savants aventuriers et érudits, et on ne peut pas dissocier, hein, il n'y a pas de compartiment étanche. Tous ces grands aventuriers étaient de grands érudits, possédaient et parlaient facilement entre 7 et 12 langues chacun, y compris, il lisait en plus, les langues mortes. Donc c'est une connaissance accumulée très exceptionnelle. Moi, je suis très admiratif. Alors, pour rester dans le développement et la ligne de cohérence, Volney va influencer Talleyrand avec la publication des ruines. Bonaparte décide une expédition en Égypte et part avec 35 000 hommes, débarque d'ailleurs de façon inconsidérée à Alexandrie où il livre sa première bataille avec une armée qui est en tenue d'hiver. Nous sommes au mois de juillet. Vous voyez la chaleur qui peut régner à Alexandrie et au Caire. Mais à côté de ces 35 000 hommes, il y a des savants. Alors, il y a des botanistes, il y a des dessinateurs.
Il y a Vivant de Non, il y a Sylvestre
alors,
de Sassy.
Il y a parmi eux un personnage très exceptionnel, qui Bonaparte n'en voulait pas parce qu'il était trop vieux. La moyenne d'âge était d'une vingtaine d'années. Il a 52 ans et c'est le baron Dominique Vivant de Non. C'est un personnage énorme. C'est un personnage doué de tous les talents. Il a publié un petit texte érotique qui s'appelle Point de lendemain, qui est un pure merveille, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, qui est un chef-d'œuvre de la prose, bien avant. Coderlos de Laclos, c'est-à-dire 5 ans avant la publication des Liaisons dangereuses, lui va écrire un petit texte où l'homme ne sort pas grandi d'une position d'une très grande modernité. Il est le jouet de deux femmes, j'en dis pas plus. J'espère que je donnerai envie à tous les auditeurs et surtout les auditrices.
Yves Solaire s'est écrit là-dessus notamment.
Oui, c'est moi qui lui ai fait écrire le livre sur Vivant de Non. Et alors, Vivant de Non va revenir, va faire donc tout un voyage avec l'armée de Bonaparte, va donner le coup de feu. Il est très courageux, mais quand je disais qu'il avait tous les talents, il écrivait admirablement, il dessinait tout autant, il gravait délicieusement, et il va jeter un regard d'une rare et grande curiosité sur toute cette civilisation. C'est la publication, à son retour, du voyage en Égypte et en Nubie du baron Dominique Vivant-Denon, qui va avoir 12 réimpressions.
La perle des bibliophiles.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nefertiti.
Nefertiti, car oui, nous parlons d'Égypte ancienne avec Franck Ferrand aujourd'hui sur Europe 1.
Thierry me demande si, parce que j'ai employé tout à l'heure le terme de paralysie générale, nous demande si Champollion était syphilitique. J'aurais dû employer simplement le terme de catalepsie ou de tétanie même, pour être encore plus exact, me semble-t-il, quoique je ne sois pas médecin moi-même. Nous sommes en effet en compagnie de Jean-Claude Simoen, qui est, entre autres ouvrages, l'auteur de ce magnifique Savants et aventuriers en Égypte, d'un grand album, comme les éditions de la Martinière sont capables d'en publier, avec énormément d'illustrations, de très belles gravures, de très belles eaux-fortes, des tableaux, etc. Vous nous parliez de Dominique Vivant-Denon à l'instant. Il y a un peintre dont il faut absolument que nous parlions, c'est David Roberts, qui a fait rêver des générations.
C'est un personnage incontournable. Et pour cela, il faut que je vous raconte une petite histoire personnelle, car je suis allé pour la première fois en Égypte. J'y suis retourné depuis une bonne quinzaine de fois. Et pour la première fois, c'était tout simplement pour tenir la promesse que j'avais faite à ma fille qui passait son bac, en disant tu choisiras ton cadeau. Et non seulement
elle a choisi un voyage en Égypte.
Elle a réussi son bac, mais avec mention, ce qui m'a quelque peu étonné, ce qui est peut-être pas très gentil de souligner, mais c'est fait. Et elle dit, papa, j'ai choisi un voyage en Égypte. Et alors, évidemment, j'étais forcé de m'exécuter, ce que je ne regrette en aucun cas maintenant. Et alors, dans ces grandes savonnettes, quelquefois luxueuses, qui glissent sur le Nil et qui polluent d'ailleurs considérablement le Nil, il y avait dans la grande salle à manger de ce bateau qui faisait la navette entre la grande Thébaïde, c'est-à-dire entre Louxor et Thèbes, et Assouan, c'est-à-dire la limite de la première cataracte. Mmh. Il y avait des reproductions de temples égyptiens toutes plus belles.
Dans des couleurs très tendres.
Toutes plus belles les unes que les autres. Elles étaient en noir et blanc. Et j'ai demandé, mais qui est l'auteur de ces dessins.
De ces merveilles.
Personne n'a pu me répondre. Et quand j'arrive à Assouan, au hall cataracte, dans le hall, il y avait des expositions, mais cette fois en couleur. Et j'ai découvert pour la première fois le nom de David Roberts. Alors, quand je suis rentré à Paris, je me suis précipité à la Bibliothèque nationale, où j'ai découvert non seulement David Roberts, mais tout un environnement pictural et littéraire de gens qui sont allés et qui s'était rendu en Égypte au XIXe siècle.
David Roberts, ce sont des angles très inattendus, un peu la façon de Valenciennes, par exemple. Ce sont des coloris très tendres, hein, des verts près, des mauves, des ocres passés.
Ce sont des mises en perspective de temples et de mosquées, avec toujours une dimension humaine en premier plan ou en arrière-plan, pour bien montrer l'aspect monumentaliste de tout cela. Et on reconnaît un David Roberts, on ne peut pas se tromper, personne n'a cherché à l'imiter, et cet homme, à lui tout seul, va construire. Il est un personnage qui me fascine, il est un décorateur de théâtre, il est écossais. Et il est très doué pour le dessin et il fait un premier voyage en quittant son île, son Écosse, en se rendant en Espagne, et puis, non pas dans le nord de la France, mais en Belgique. Et déjà, il peint un certain nombre d'églises. Et c'est tout simplement
Omar Khan. Il y a déjà tout son talent d'Égypte.
Mais
dans
on ne sait pas encore qui il est. Alors, il va construire un authentique et un formidable voyage d'affaires, un peu comme un industriel va créer une entreprise. Il va décider, ayant fait déjà un certain nombre de croquis et s'étant essayé sur le terrain pour bien montrer la mise en perspective des grandes architectures gothiques pour l'essentiel, et en France, et en Belgique, et en Espagne, il va débarquer à Alexandrie. Et il va débarquer en poussant le détail pour ne pas choquer l'infidèle jusqu'à n'avoir dans sa trousse que des pinceaux qui ont évité le poil de porc.
Oui, donc c'est quelqu'un.
Et donc, ce personnage
on sent tout de suite
va
la...
établir, va faire
l'empathie.
Tout un périple. C'est-à-dire qu'il va commencer par le Delta, il va évidemment faire le Caire et toute la région du Caire, et il va commencer à remonter le Nil en descendant temple après temple. Il va arriver dans cet endroit absolument magnifique qu'est la Grande Thébaïde. Alors la Grande Thébaïde, c'est Thèbes. D'un côté, vous avez
Le Saint
des Saints
de l'Égypte ancienne.
Et dans le prolongement, vous avez Karnak. Et de l'autre côté, vous rentrez à travers les portes des colosses de même nom. Vous avez Medinet Abou sur la gauche. Vous avez
l'Oranesseum.
Vous avez le temple de Deir el-Barawi. Et puis la reine Hatshepsut. Et puis après, la vallée des artistes, la vallée des rois, la vallée des reines. Et après, il va continuer encore son périple.
C'est bien parce
jusqu'à Assouan et jusqu'à Abou Simbel. Et cet homme va faire un relevé systématique avec ses crayons et ses touches d'aquarelle. Mais son périple ne s'arrête pas là. Il revient pour traverser le Sinaï, il s'arrête à Sainte-Catherine, il va aller embrasser les civilisations du passé en Jordanie, c'est-à-dire la civilisation nabatéenne de Petra, le Sitre de Gerasha, et il va remonter toute la vallée du Jourdain. Il va faire toute la Terre Sainte pour vouloir après rentrer à Damas où il est pris de fièvre. On a failli le perdre, il se soigne, il est très bien soigné, il ne va pas aller à Palmyre, malheureusement pour nous, mais il va faire tout Beyrouth, Baalbek, Sidon et Tyr.
Grâce à vous, Jean-Claude Simoen, c'était presque une émission sur David Roberts. Je signale que ce personnage n'est qu'un des très nombreux personnages qui sont évoqués dans cet album édité par les éditions de La Martinière. J'aurais aimé qu'on parle évidemment d'un certain nombre de grands savants français, de Mariette, de cet Institut français du Caire, etc. Bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Je signale vos autres ouvrages dans le même registre. Jean-Claude Simoen, Le Voyage en Égypte, aux éditions J'ai lu en images. Et puis, L'épopée de l'archéologie, savants et aventuriers. Ça, c'est une grande histoire de tous les archéologues dans des civilisations bien différentes et pas seulement dans la civilisation égyptienne. Merci Jean-Claude Simoen.